Aujourd'hui, le troisième dimanche de l'Avent. Vous avez vu qu'on a allumé les bougies. Et donc, trois bougies sont allumées. Donc, on va vers la pleine lumière. On va vers le Christ, Jésus, qui vient, qui est la pleine lumière. Et on voit aussi à travers ce symbole qu'il y a une progression. On avance tout doucement, on sort doucement des ténèbres au fur et à mesure qu'on se rapproche de Jésus. Ce matin, on va parler de la volonté de Dieu, la volonté ultime de Dieu pour l'être humain. Pourquoi Jésus est-il venu sur la terre ? Aujourd'hui, on fête Noël et chacun a ses motivations. Elles sont diverses et variées. Mais pourquoi Jésus est-il venu sur la terre ? On va se poser ces questions. Et nous allons chercher ensemble ce matin à comprendre la volonté ultime de Dieu pour l'être humain. La volonté ultime signifie ce que Dieu veut pour la fin, ce qu'il a préparé pour l'aboutissement, ou encore ce qui est le plus grand, ce qui est le plus important, le plus haut. Qu'est-ce que Dieu a conçu ou projeté pour nous les humains dès avant la fondation du monde ? Qu'est-ce que Dieu souhaite plus que tout ? Qu'est-ce qu'il désire le plus pour l'être humain ? En ce temps de l'Avent, bien sûr, qui nous conduit vers Noël, posons-nous aussi cette question : pourquoi Jésus est-il venu sur la terre ? Il y a beaucoup de questions, j'en suis conscient. Les réponses se trouvent dans le texte que nous allons lire ensemble, car pour nous, chrétiens, la Bible n'est pas un livre démodé ou dépassé, mais elle est la vérité avec un grand V. Quoi qu'en disent nos contemporains ou tout ce qu'on peut entendre autour de nous, la Bible est la vérité et la seule vérité absolue qui existe. Le texte que j'ai choisi ce matin, David l'a déjà lu le début, c'est donc dans l'évangile de Jean, dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Jean au chapitre 14, et on va lire donc les 14 premiers versets de ce chapitre que je vais lire avec vous. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures ou de maisons dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera même de plus grandes parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Jésus se trouve dans la chambre haute avec ses disciples. Nous sommes le jeudi soir, juste avant la crucifixion, le lendemain. C'est la dernière fois que Jésus a rassemblé ses disciples pour leur parler dans l'intimité, avant son départ, tout proche. Il leur donne les dernières recommandations pour les préparer à vivre sans lui et à poursuivre l'œuvre qu'il a commencée. Le cœur des disciples, comme on a pu le lire, est troublé. Il est en peine, il est abattu. En effet, Jésus vient de redire une nouvelle fois qu'il allait bientôt mourir et les quitter. De plus, Jésus leur a maintenant, tout comme il l'avait déjà dit aux Juifs, il leur a dit qu'ils ne pouvaient pas le suivre là où il allait. Alors que Jésus ait dit ces choses à des Juifs, aux pharisiens, ça, ils le comprenaient fort bien. Mais que maintenant Jésus le dise à eux, ses disciples, qui sont quand même mieux que les Juifs, ça, ils ne le comprenaient pas. Et ils étaient consternés et abattus. Il est intéressant de relever que dans notre texte, la foi tient une grande place. Je ne sais pas si vous avez remarqué le nombre de fois où le mot « foi »,« croire » est employé. Jésus encourage avec insistance ses disciples à croire en lui, en ses paroles et aux œuvres qu'il accomplit. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus tourne résolument les yeux de ses disciples vers l'avenir. Un temps qui se situe au-delà de sa mort. Pour Jésus, la mort ne semble être qu'un passage. Il s'en va dans un lieu où il va leur préparer une place, puis il reviendra pour les prendre avec lui là où il est. Quel beau message pour sa résurrection. Même si le mot « résurrection » n'est pas présent, mais ce texte respire la résurrection. Jésus va vaincre la mort. La mort ne sera plus une fin, un tombeau fermé, prisonnier, où il sera prisonnier, mais Jésus va ouvrir, va inaugurer un nouveau chemin qui conduit à la vie éternelle. Ce texte est particulièrement approprié pour nous aider à comprendre la volonté ultime de Dieu pour l'être humain. Qu'est-ce que Dieu a conçu et projeté pour nous, humains, avant même la fondation du monde? Qu'est-ce qu'il souhaite et désire de tout son cœur pour nous, ses créatures? Pour comprendre l'importance de cette volonté ultime, il nous faut réaliser que l'œuvre de la croix en est une conséquence. L'œuvre de la croix n'est pas l'objectif final. C'est le moyen indispensable pour y accéder. Mais la volonté de Dieu, elle se trouve ailleurs que sur la croix. La croix n'est qu'un passage, obligé, mais qu'un passage. Plongeons maintenant sans tarder dans le texte pour découvrir de manière progressive la volonté ultime de Dieu à notre égard. Le premier point que nous allons voir, la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous soyons dans la maison du Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. À travers ces paroles de Jésus, nous découvrons le lieu ultime où va Jésus. Dans la maison du Père. Après sa mort, Jésus ne restera pas dans le tombeau, mais il va se rendre dans la maison du Père pour préparer une place à ses disciples. Une fois cette place préparée, il reviendra pour les prendre avec lui, afin que là où il est, dans la maison du Père, ses disciples soient aussi. Jésus veut donc que ses disciples soient dans la maison du Père avec lui. N'est-ce pas extraordinaire? De prendre conscience que Dieu, le maître de l'univers, le créateur de toutes choses, celui qui règne absolument sur tout, nous veut, il le veut, avec lui, dans sa maison. La maison du Père céleste est sans conteste l'endroit le plus merveilleux qui soit. Rien ne peut lui être comparé. Nous y trouvons la paix, la justice, la joie, l'amour, la sécurité, la bénédiction. Tous les attributs de Dieu. Cette maison reflète la personne de Dieu. Voilà ce que l'apôtre Paul écrit sur cette maison. Dans 2 Corinthiens 5, versets 1 et 2, nous savons, en effet, que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, fragile, éphémère, est détruite, Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. Et nous gémissons dans notre tente ici-bas sur la terre avec l'ardent désir de revêtir notre domicile céleste. Si toutefois nous ne sommes pas trouvés, si toutefois nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Il y a une condition quand même, hein. Vous avez vu que condition à la fin, des fois qu'on a un peu du mal à comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Pour ma part, quand il est question d'être trouvé vêtu, il est question du vêtement que Christ nous offre. Ce vêtement blanc que Jésus a acquis à la croix par sa mort et sa résurrection, où il a payé le prix de nos péchés. Et donc le chrétien, par définition, il va revêtir et recevoir ce vêtement blanc de Jésus. Et donc, il ne sera pas nu, parce que la nudité est vue comme le péché. Il ne sera plus nu. Rappelez-vous, Adam et Ève, après la chute, ils étaient nus. Ils en ont pris conscience. Et ils ont tout de suite voulu se vêtir avec des choses humaines. Mais tout ce que nous pouvons prendre comme vêtements pour nous couvrir et pour masquer notre péché ne servirait à rien. Par contre, Dieu déjà, au tout début, juste après la chute, il a sacrifié des animaux et il a pris la peau de ces animaux pour revêtir Adam et Ève. Et ces peaux d'animaux symbolisaient déjà Jésus-Christ. Le sacrifice parfait. Et c'est donc Jésus, par son vêtement blanc, qui peut et nous donne accès à cette maison. Cette maison est un bâtiment somptueux, revêtu de la beauté et de l'éclat de Dieu. Sa gloire et sa majesté rayonnent dans tous les recoins de la maison. Une maison construite par Dieu lui-même, dans laquelle il habite et est présent, et de ce fait, elle est inébranlable et éternelle. Nous pouvons avoir un petit aperçu de la splendeur et de la perfection de cette maison dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, où cette maison est assimilée, identifiée à la ville sainte, à Jérusalem, d'en haut, qui descend du ciel d'auprès de Dieu et ayant la gloire de Dieu. Son éclat est semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. La ville est d'or pur, semblable à du verre pur. Elle est ornée d'une multitude de pierres précieuses, saphir, émeraude, sardoine, chrysolite. Elle n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Apocalypse chapitre 21. La volonté ultime et suprême de Dieu pour nous les humains est que nous soyons dans sa maison, comblés de ses richesses et de toutes ses bénédictions. Jésus affirme que ses disciples savent où il va et qu'ils en connaissent le chemin. Il est assez surprenant de voir que Thomas contredit Jésus quand il lui répond « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Visiblement, les disciples n'ont pas encore tout compris. Le deuxième point qu'on va voir maintenant, la volonté ultime de Dieu pour nous les humains, c'est que nous soyons dans l'intimité du Père. Jean 14, versets 6, 7, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Dans ces versets, Jésus approfondit encore notre compréhension de la volonté de Dieu pour nous. Oui, Dieu nous veut dans sa maison. On vient de le voir. Mais maintenant, Jésus va plus loin encore pour nous révéler cette volonté. Nul ne vient au Père. La volonté ultime de Dieu est que nous soyons unis au Père. Pas simplement dans sa maison, mais il nous veut auprès de lui, tout près de lui. La plus grande bénédiction, mes bien-aimés, n'est pas d'être dans la maison du Père et d'avoir toutes les richesses de Dieu, mais d'être dans la présence et dans l'intimité de Dieu. Dieu le Père est la plus grande des bénédictions, qui contient toutes les bénédictions que nous puissions avoir. Lui seul, dans notre unité avec lui seul, nous sommes comblés. Notre âme est comblée infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou espérer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en lisant le texte, le mot « Père » revient 13 fois dans ces 14 versets. Le mot « Père » est omniprésent dans le texte. Et cela est voulu par Jésus. C'est intentionnellement que Jésus a donné une telle place au nom du Père. Parce que Jésus veut nous faire connaître le Père. C'est l'objectif de Jésus sur la terre. Parce que Jésus, plus que quiconque, sait combien son Père est exceptionnel, digne de louange et d'adoration. Il est son Fils unique. Et il aime son Père plus que tout, et son Père aussi l'aime plus que tout. Jésus et son Père sont dans une intimité inconcevable pour notre esprit humain. Ils ne sont pas simplement tout près l'un de l'autre, comme pour nous, hein, quand on veut être proche de quelqu'un, on se rapproche et on est tout près de lui. Et bien pour eux, c'est encore plus grand que ça. Mais Jésus est dans le Père et le Père est dans Jésus. Le Père et le Fils sont parfaitement un. C'est pourquoi Jésus déclare « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Jésus va ensuite affirmer avec force son unité avec le Père. Quand il répond à Philippe, Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe ? Pourquoi ? Non, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment, dis-tu, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi ! Je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. C'est là le point ultime et suprême de sa volonté. Dieu veut que nous entrions dans son intimité et que nous ne fassions plus qu'un avec lui et son Fils Jésus. Voici ce que Jésus dit dans sa prière qui vient conclure cette dernière entrevue avec ses disciples dans Jean 17. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Donc là, il parle des 12 disciples qui sont avec lui, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Ça, c'est nous. C'est moi, c'est vous. Tous ceux qui ont cru, il est question de nous, là. La parole parle de nous. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Depuis le début de l'humanité, l'homme a été séparé de Dieu, son Créateur et son Père, parce qu'il a choisi délibérément de lui désobéir pour vivre selon ses propres envies. Quel drame terrible pour l'humanité entière. Quel lot de souffrances gigantesques en a découlé. Est-ce que vous imaginez toute la souffrance qui a été accumulée depuis la chute? Est-ce que vous imaginez la masse, l'océan de souffrance qui est là? Depuis lors, l'homme erre dans des déserts sans fin. Il est comme des brebis sans berger. Ils ne savent plus où ils vont. Ils ont perdu leur boussole, leur repère. Ils ont perdu leur vrai père. Ils ont perdu leur vrai père. Les disciples ne comprenaient pas tout ce que leur disait Jésus, comme nous le voyons avec Thomas et Philippe. Il leur a fallu du temps. Il leur aura surtout fallu la croix où Jésus est mort pour le pardon de nos péchés. Mais plus tard, ils ont compris l'immense amour que Dieu avait pour eux. Et ils ont compris la volonté ultime que Dieu avait conçu pour eux avant la création du monde. C'est l'apôtre Jean qui était présent, hein, c'est le disciple que Jésus aimait, qui était présent avec les 12, qui, dans sa première lettre, écrit ceci: « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelé enfant de Dieu, et nous le sommes. » L'apôtre Pierre, quant à lui, nous montre qu'il a compris la volonté ultime de Dieu pour nous quand il écrit à la fin de sa première lettre: « Le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés dans notre union avec Jésus-Christ, à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. » Lui qui nous a appelés dans notre union avec Jésus-Christ à sa gloire éternelle, à être unis à lui, à sa gloire, à sa sainteté.
Waouh.
C'est beau. C'est une belle volonté, non, vous ne trouvez pas? C'est une volonté extraordinaire. En plus, que nous ne méritons même pas. Puisque nous avons désobéi à Dieu, et souvent nous ne l'honorons pas. Mais c'est lui qui voulait cela avant même la fondation du monde. Avant que nous ayons chuté, le plan de salut que Dieu a mis en place n'est pas un plan B que Dieu a dû trouver en vitesse et qu'il a réussi à trouver parce qu'il est tout-puissant. Non, Dieu, il est souverain et il sait tout à l'avance, il a tout conçu à l'avance et il a conçu ce plan déjà avant la fondation du monde parce qu'il savait que l'homme allait chuter et la chute de l'homme était inscrite dans son plan parce que son objectif n'était pas la première terre, mais son objectif ultime était la seconde création, était ce moment que Jésus nous présente où nous serons avec lui dans la nouvelle Jérusalem pour toujours, dans les nouveaux cieux et dans la nouvelle terre. Le troisième point que nous allons voir maintenant, c'est comment y arriver. Comment arriver à ce lieu. Puisque Jésus disait à ses disciples, vous ne pouvez pas venir où je vais. Comme les Juifs, aucun humain ne pouvait suivre Jésus. Pierre voulait le faire, et il a même dit à Jésus, ah non, moi je te suivrai. Jusqu'à la mort. Il était convaincu que son amour personnel suffirait pour suivre Jésus. Et Jésus lui a dit, en vérité, je te le dis, ce soir même, tu m'auras renié trois fois avant que le coq ne chante. Et Pierre s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas suivre Jésus. Il pensait, il croyait que son amour suffirait, mais ce n'était qu'une illusion. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Pourquoi Jésus est-il venu sur la terre? Jésus n'est pas venu sur la terre pour prendre un temps de vacances et pour accomplir certaines affaires personnelles. Jésus est venu sur la terre dans le seul but d'accomplir la volonté de Dieu. Faire connaître Dieu le Père et unir l'être humain à lui. Et nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, au chapitre 10, versets 5 à 7, ces paroles. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Tu n'as accepté ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, donc la Bible, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Jésus est venu accomplir la volonté de Dieu, pour que nous soyons réunis au Père de manière parfaite et intime. Quelqu'un a-t-il déjà vu Dieu? Quelqu'un connaît-il Dieu de ses propres forces? Aucun humain, quel qu'il soit, ne peut voir Dieu et vivre. Le péché a séparé irrémédiablement l'homme de Dieu. Et Dieu étant saint, aucun homme ne peut se tenir devant lui, car tel un feu, sa sainteté le consumerait sur place. » Jésus est venu pour nous révéler le Père et le faire connaître. Dans Matthieu 11, versets 25 et 27, nous lisons « En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Si vous me connaissiez, dit Jésus, vous connaîtriez aussi mon Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Dans son entrevue avec ses disciples, Jésus dira encore plus loin, « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. » Jésus s'en va rejoindre le Père. L'aboutissement et la finalité du chemin de Jésus, c'est le Père. Jésus ne peut pas vivre sans son Père. Il aurait pu quitter la terre à n'importe quel moment et rejoindre son Père. Il était libre et avait le pouvoir de le faire. Pourquoi Jésus ne l'a-t-il pas fait? Parce que Jésus était venu sur la terre, non pas pour lui-même, mais pour faire la volonté de son Père. Jésus n'était pas venu pour son confort personnel, mais il était venu accomplir la volonté de son Père, réconcilier l'être humain avec lui. En remontant au ciel directement, aucun humain n'aurait été sauvé. Si Jésus avait simplement satisfait son confort, aucun de nous ne serait sauvé. C'est pourquoi Jésus devait passer par la croix. C'était obligé. Il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Il devait payer le prix de nos péchés. Parce que Dieu est un Dieu de justice qui ne pouvait laisser le péché impuni. Jésus s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ce chemin n'a pas été facile pour Jésus. Il a dû lutter et se rendre obéissant. Il s'est rendu obéissant. Car il craignait la croix, comme nous pouvons le voir dans le jardin de Gethsémané, où Jésus était tellement angoissé que des grumeaux de sang sortaient de sa peau. En mourant et en ressuscitant, Jésus a inauguré un chemin nouveau qui nous ouvre l'accès à la présence de Dieu le Père. Par son sacrifice, il a accompli la volonté de son Père et nous introduit dans le Saint des Saints, le sanctuaire, c'est-à-dire le lieu de la présence de Dieu. Ce lieu, ce sanctuaire, ce Saint des Saints, était jadis interdit à l'humain. Et Jésus maintenant a ouvert ce lieu. Quand il est mort sur la croix, le voile qui interdisait l'accès du sanctuaire s'est déchiré du haut en bas. C'est pour cette raison que Jésus a pu affirmer « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est le seul chemin. Il n'y en a pas d'autre. Le monde nous propose mille et une manières pour être heureux et réussir votre vie. Si vous allez sur Internet, vous posez des questions, vous allez avoir mille et une solutions pour être plus beau, pour avoir de l'argent, avoir de la réussite. Le psaume 39 nous dit « Oui, l'homme va et vient comme une ombre. Il s'agite, mais c'est du vent. Il amasse des richesses et il ignore qui les recevra. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? C'est en toi qu'est mon espérance. » En conclusion, maintenant, que faire? Que faire avec ce message en comprenant cette volonté ultime de Dieu? Qu'allons-nous faire de cette révélation? Maintenant, c'est moi qui dois faire quelque chose. Dieu a parlé, Dieu m'a révélé quelque chose. Qu'est-ce que j'en fais maintenant? Dans notre texte, Jésus nous donne trois choses à faire dans un ordre bien précis. Le premier, il dit « Croyez en Dieu et croyez en moi ». La première chose que Jésus nous encourage à faire, c'est de croire en lui et en ses paroles. Si tu as compris la volonté de Dieu à ton égard, si tu as compris l'immense amour qu'il a pour toi, si tu as compris que Jésus est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie, et que nul ne vient au Père que par lui, alors viens à lui et crois en lui, donne-toi à lui. Tu n'as rien à faire, tu n'as pas de sacrifice à apporter, puisque Dieu, on l'a lu avant, qu'il n'a voulu aucun sacrifice, aucune offrande, parce qu'il a formé un corps à son Fils, et c'est ce corps, le corps de son Fils, qui a payé le prix de nos péchés. Amen. Accepte le cadeau que Dieu le Père te fait en Jésus-Christ, son Fils. Si ce matin, tu entends ce message et que peut-être tu n'as pas encore fait ce pas, alors je t'en supplie. Dieu te supplie, te t'implore, viens et crois en Jésus. C'est sa volonté que tu sois uni à lui. Tu pourras alors revenir dans la maison du Père et retrouver cette intimité avec Dieu et avec Jésus. C'est là que se trouve le bonheur éternel, c'est là que se trouve ta délivrance. Jésus l'a encore dit autrement, comment venir à lui, comment accéder à ce cadeau. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, donc suivre son chemin, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » C'est une autre manière de décrire la foi, puisque la foi, croire en Jésus, c'est recevoir tout l'enseignement de Jésus, c'est recevoir toutes les pensées de Jésus et ne plus penser à moi. Laisser de côté tout ce que moi je peux penser et recevoir pleinement ce qu'est Jésus, c'est renoncer à soi. C'est mourir à nous-mêmes comme Jésus l'a fait sur la croix pour que la vie de Christ puisse maintenant vivre en moi. La deuxième chose que nous sommes appelés à faire, c'est à la fin de notre passage où Jésus dit « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi ». Donc ici, il est question maintenant de ceux qui croient. On a avancé d'un cran. Donc celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je vais au Père. En allant au Père, Jésus nous enverra le Saint-Esprit. C'est ce qu'il va dire juste après. Il ne nous laissera pas orphelins.
Dieu le Père et Dieu le Fils vont venir vivre en nous par le Saint-Esprit et ils vont faire leur demeure en nous. Après sa résurrection, Jésus est venu se présenter à ses disciples et il leur a dit « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » C'est quoi les œuvres que Dieu veut que nous fassions ? Ce que moi j'ai envie ? Non. C'est comme Jésus. Maintenant, nous sommes animés par l'Esprit de Jésus. Ceux qu'on crut sont animés par l'Esprit de Jésus et ils sont sur la terre pour faire la volonté de Dieu que nous venons d'entendre, pour révéler au monde, pour proclamer au monde ce que Jésus a fait et que Dieu les aime et qu'il les veut auprès de lui. Ce temps de Noël est particulièrement propice, mes bien-aimés, pour annoncer autour de nous ce pourquoi Jésus est venu. Monte sur une haute montagne, écrit le prophète Ésaïe, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Et le dernier point, c'est que nous voyons que Jésus nous révèle qu'est-ce que nous avons à faire. Il dit au verset 13, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié. » Et nous voyons ici la finalité, l'aboutissement de tout, de absolument tout, c'est que le Père soit glorifié. Et donc nous voulons rendre gloire à Dieu aussi dans nos vies. Nous voulons nous appliquer à suivre Jésus, à lui obéir pour que le nom du Père soit glorifié dans le Fils et rendre gloire à ce Dieu merveilleux, ce Père de gloire qui nous a aimés avant même la fondation du monde et qui a cette volonté. Il nous veut auprès de lui, il nous veut en lui pour pouvoir nous faire participer à sa gloire et nous inclure dans tout ce qu'il est. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier encore pour ta volonté que nous découvrons dans ta parole, la Bible. Seigneur, quelle joie. Oui, tu nous ouvres les yeux. Oui, c'est toi qui nous éclaires. C'est toi la lumière du monde qui est venue nous arracher aux ténèbres. Et nous sommes juste reconnaissants de voir, de comprendre ta volonté, de comprendre l'amour que tu as pour nous. Tu as, dès l'origine, tu nous as créés pour que nous soyons unis à toi et que nous soyons intégrés à toi, pour que tu puisses nous inclure dans ta gloire et nous faire participer à tout ce que tu es. Seigneur, pardon pour le péché, pardon pour notre orgueil, pardon pour mon égoïsme qui nous a séparés de toi, qui nous a privés de toi, de la vie, de l'amour. Et nous voyons autour de nous encore combien le monde souffre, combien les injustices sont là, combien la haine, la violence, les guerres, les souffrances sont là. Mais toi, tu n'as pas voulu ça. Et aujourd'hui encore, tu veux nous appeler à venir à toi. Tu veux nous appeler pour que nous soyons réconciliés avec toi en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu pour cela. Et il est mort sur la croix pour éliminer le péché et nous permettre d'accéder à ta présence. Qu'y a-t-il de plus grand, Seigneur, que ta présence, que vivre la présence de Dieu ? Seigneur, tu illumines nos vies. Seigneur, tu guéris notre âme, tu restaures notre âme. Toi seul peux le faire, pas les médecins, pas les psychiatres qui peuvent apporter qu'une solution éphémère et superficielle. Il n'y a que toi qui puisses nous guérir et nous libérer et nous restaurer. Merci Seigneur. Donne-nous de le vivre encore, de rester près de toi, de nous donner à toi entièrement, de ne vivre que pour toi, pour ta gloire et d'annoncer ce message, d'annoncer ce message autour de nous comme Jésus nous l'a commandé. À toi toute la gloire, à toi toute notre reconnaissance au siècle des siècles. Amen.